No llores. Vas a llegar con. Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Cierto, consulado?
Te va a pasar con su consulado.
El papá.
Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est l'un de ces 2342 enfants qui a été séparé, qui ont été séparés, dis-je, de leurs parents depuis le mois de mai, depuis que Donald Trump, donc, a mis en vigueur cette politique de tolérance zéro envers les migrants. Donc, ce que a décidé Trump, dans les faits, c'est qu'il a décidé de poursuivre au pénal et non plus au civil, comme c'était le cas auparavant, les clandestins, donc, qui franchissent illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et donc, comme ils sont poursuivis au pénal, ils mettent les parents en prison. Ils sont incarcérés, puis les enfants, eux autres, sont placés dans ce qu'ils appellent les espèces de centres de rétention. Je ne sais pas si vous avez vu les photos, là. Puis c'est des cages, dans le fond, ils les mettent dans des cages. Et moi, je vais vous dire, là, je ne veux pas ramener ça à ma situation personnelle, mais moi, je sais c'est quoi un enfant qui a été abandonné par ses parents. Je le sais parce que j'en ai adopté un. Et la blessure dure toute la vie. Et je ne peux pas concevoir qu'un gouvernement, qu'un président qui a eu lui-même des enfants puisse faire subir à des petits garçons et à des petites filles un traitement aussi cruel et inhumain que celui-là, qui risque de les marquer pour le reste de leur vie. Et là, on a en studio Jorge Contreras, il est correspondant au Canada pour la chaîne espagnole Univision. Jorge, bonjour.
Bonjour Bernard.
Merci d'être là. La raison pour laquelle on voulait te parler, c'est d'abord la chaîne Univision, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est la plus grande chaîne en langue espagnole de toutes les Amériques. C'est une très grande chaîne de télévision. Et là, plusieurs des animateurs de bulletins de nouvelles d'Univision, tes collègues, dans le fond, sont à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Ils sont à McAllen, Texas.
Bon, ils sont au Texas et là, ils ont pu observer ce qui se passe et c'est pour ça que je voulais que tu viennes en studio. Je voulais que tu nous racontes ce qu'ils t'ont dit, ce qu'ils t'ont raconté, ce qu'ils ont vu.
Bernard, avant le 31 mai, c'était 40 familles qui étaient séparées. Aujourd'hui, c'est 70 familles qui sont séparées par jour. On est en train de parler par jour. Ce sont des 10 familles qui rentrent, qui essayent de rentrer illégalement aux États-Unis, oui. Sont séparées. Et il y a un camp de fortune, ou un camp, comme vous t'as décrit, qui a été fait à McAllen, où est-ce que les enfants sont carrément dans des caches.
Alors, ces personnes-là qui rentrent, tu dis 70 familles par jour, est-ce que ce sont des Mexicains qui rentrent? C'est des gens qui arrivent de où?
C'est des gens qui arrivent de l'Honduras, du Salvador, du Guatemala. Ils font toute la route du Mexique. Ils laissent leur famille déjà dans leur pays d'origine pour essayer de rentrer aux États-Unis pour avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, il y a des personnes à Tapachula, qui est la frontière entre le Mexique et le Guatemala. Oui. Il y a des familles qui vont vers les États-Unis. Ils savent c'est ce qui va lui arriver. Puis c'est ce qu'ils ont répondu, c'est « Je préfère que ça m'arrive ça que laisser ma famille dans mon pays. »
OK. On va reparler de ça parce qu'effectivement, il y a des gens qui appuient Trump là-dedans et qui disent « Ils courent après ». Alors que ce soit les enfants après ça qui payent pour ça, ils savaient dans quoi ils s'embarquaient, puis il faut qu'ils vivent avec les conséquences de leurs décisions. Évidemment, c'est pas une optique avec laquelle je suis d'accord, mais on l'entend beaucoup. Mais on va y revenir. Donc, ils arrivent à la frontière. Ils se font arrêter à ce moment-là?
Oui, il y a une de nos collègues, Dani Rivero, qui est allée au Guatemala parce qu'il y a une Guatémaltèque qui est partie le 5 mai avec son fils Léo, de 6 ans, vers les États-Unis. Elle est arrivée le 10 mai. Elle est rentrée par la frontière. Elle s'est fait arrêter le 12 mai. On l'a séparée de son fils.
Il y a quel âge?
6 ans.
Il y a 6 ans.
6 ans. Et on lui a demandé de signer sa propre déportation puis qu'elle allait retrouver son fils. Elle est au Guatemala en ce moment, puis son fils est aux États-Unis, puis elle ne sait pas quand elle va le récupérer. C'est comme ça.
Est-ce qu'elle est capable d'entrer en communication avec lui?
Non.
OK. Est-ce qu'elle sait où il se trouve?
C'est les agents consulaires qui sont en train
d'essayer de retrouver l'enfant.
De retrouver l'enfant. Parce que en date d'aujourd'hui, on ne sait pas c'est quand qu'elle va pouvoir retrouver son fils. On lui avait dit une semaine, après ça un mois. Ça pourrait passer 6 mois, puis l'enfant n'est pas encore avec sa mère.
OK. Puis ça fait combien de mois qu'ils sont séparés, là, tu dis?
Bien, depuis le 12 mai.
OK. Donc, ça fait 6 semaines à peu près.
6 semaines, voilà, c'est ça. Et c'est ce que tu viens de dire, une séparation, un sentiment d'abandon, ça reste marqué à vie. Et on est en train de parler de la première puissance mondiale qui donne l'exemple de foi, des droits humanitaires.
Est-ce que, alors, je l'ai un peu résumé tout à l'heure, là, ce qui s'appliquait auparavant, avant cette politique donc de Trump et de tolérance zéro là, qu'il a commencé à mettre en place au mois de mai, c'est qu'ils étaient arrêtés. Ce qu'ils faisaient, c'est illégal. Ils traversent la frontière illégalement. Ils étaient arrêtés, mais ils n'étaient pas séparés. Les parents et les enfants n'étaient pas séparés les uns des autres.
Si on ne peut pas prouver qu'ils ont commis quelque chose de pénal,
oui,
on ne les sépare pas.
Avant ça,
puis aujourd'hui même. Mais aujourd'hui, les juges trouvent n'importe quoi pour trouver une excuse pénale pour pouvoir les séparer. Donc, c'est très peu de familles qui ne sont pas séparées. Ce n'est pas toutes les familles qui sont séparées, il faut le dire.
Oui.
Mais c'est la majorité.
Et donc, parce que les parents s'en vont en prison en attendant le procès, parce qu'il y a des accusations pénales qui sont déposées contre elles, contre ces personnes, parce qu'elles ont traversé illégalement la frontière. Exact?
C'est ça. Puis aujourd'hui, de ces 2300 enfants,
oui,
il y en a 100 enfants qui ont moins de 6 ans qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont. On ne le sait pas.
Comment on ne sait pas où ils sont?
Mais on ne le sait pas. Les autorités ne savent même pas. Ils ne donnent pas d'explication. Selon le recensement qu'il y a, le bébé le plus jeune, c'est il y a 7 mois. Qui leur donne à manger? Qui leur change les couches? On ne le sait pas.
OK. Auparavant, ils auraient laissé l'enfant, avant le mois de mai, là, ils auraient laissé l'enfant et les parents ensemble?
Ensemble. Même s'ils étaient détenus, ensemble. Un peu comme c'est ce qui se passe ici au Canada, quand ils vont au centre Laval, ils sont ensemble.
Exact.
Mm-hmm. Mais là, ils sont séparés. Puis dans les cas des enfants de moins de 6 ans, on ne sait pas ce qui se passe en ce moment.
OK. Là, il y a ce cas là, dont on a entendu, là, on a entendu la voix du petit garçon là, qui crie « Papa, papa ». Est-ce qu'on sait de quelle origine il est, cet enfant-là?
Salvadorien.
Il vient du Salvador? Est-ce qu'on connaît un petit peu son histoire?
Oui, Salvador Castellanos, notre correspondant, a parlé pas plus tard qu'hier avec sa grand-mère qui est au Salvador. Ils ont déjà réussi à savoir qui était. Puis le consul du Salvador est en train de voir de quelle façon il peut faire en sorte qu'il retrouve sa mère. Au moins sa tante, parce que dans l'audio, il dit qu'il veut retrouver sa tante. Que sa tante est aux États-Unis. Puis il y a des gens du consulat du Salvador, c'est les autres personnes quand on entend ça, qui disent qu'ils vont tout faire pour pouvoir la retrouver et qu'ils puissent être ensemble. Mais avant d'entendre les gens du consulat, on entend même qu'un garde du corps se moque des enfants qui sont en train de pleurer. Il dit on a un genre d'orchestre.
Oui, enfin, il entend les pleurs.
Oui.
Il entend les pleurs, puis là, il dit on a un orchestre ici, oui, un orchestre de pleurs.
Oui, oui.
Il dit il ne manque qu'un chef d'orchestre.
Mm-hmm.
Hein? Et là, tu entends l'enfant qui dit je peux partir avec ma tante, je veux qu'elle vienne et qu'elle me ramène chez elle. Hein? C'est ça
voilà,
qu'il dit.
C'est
hein?
ça.
Et donc, la tante en question, est-ce qu'on sait ce qui lui est arrivé?
Elle est aux États-Unis.
Est-ce qu'elle est incarcérée, elle?
Non, elle n'est pas incarcérée. C'est pour ça qu'elle dit qu'il veut aller voir sa tante.
Alors, il est arrivé comment, cet enfant-là?
Avec sa mère.
Et sa mère, elle, est incarcérée?
Elle est incarcérée, oui.
OK, donc il sait, lui, qu'il y a une tante aux États-Unis,
oui,
puis il se dit, dans le fond, je sais que ma mère est en prison, donc je demande à ma tante de venir me sortir d'ici.
Voilà, c'est ça. Parce qu'il s'en allait la retrouver.
Et la tante, elle peut pas le sortir de là?
Elle peut pas le sortir de là.
Pourquoi elle ne peut pas le sortir de là?
Parce que le gouvernement américain ne donne pas le droit de le donner à quelqu'un d'autre.
Est-ce que là, on n'a pas d'histoire, j'espère, d'enfants là, qui vont se retrouver sur le marché de l'adoption, là, puis dont on va perdre la trace? Là?
À date, on ne le sait pas, mais on a déjà perdu la trace de plusieurs enfants. On l'a déjà perdu. Même le gouvernement américain ne peut pas donner foi de où est-ce qu'ils sont, donner foi de d'où ils sont.
Là, le petit garçon qu'on entend dans l'extrait, là, c'est lui, tu l'as dit, il vient du Salvador. Il y a un de tes collègues d'Univision qui a parlé à la grand-mère.
La grand-mère, oui.
Comment fait il
que la grand-mère, elle se demande où est-ce qu'elle est sa fille, puis où est-ce qu'il est l'enfant.
Le petit.
Fait qu'elle, elle est inquiète.
OK, qu'est-ce que tu réponds, parce qu'il faut en parler. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont dire, regarde là, ils partent du Salvador, ils partent du Guatemala pour entrer illégalement dans un autre pays, qu'ils vivent avec les conséquences de leur décision? Je sais que c'est sans cœur, mais il faut la mettre sur la table, cette question-là.
Moi, je suis immigrant. Mes parents ont vécu la guerre au Guatemala. Je sais c'est quoi la violence. Je le sais. Qu'est-ce que je peux répondre à ces personnes-là si ces parents-là sont dans le désespoir d'immigrer au Salvador? Il y a 130 000 personnes qui ont demandé le statut de réfugié partout dans le monde depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que la situation là-bas est intenable. C'est invivable. Corruption dans le gouvernement. Les cartels de drogue qui veulent prendre tout le pouvoir. La violence commune. Mm-hmm. La corruption dans toutes les institutions autres que le gouvernement.
Là, tu me parles du Guatemala?
Guatemala, Salvador.
On pourrait parler de l'Amérique latine pratiquement parler, au complet, à part le Costa Rica, dans le fond. Là. Mais, OK, très bien. Donc, on comprend la motivation, mais répondront les mêmes personnes, là. C'est pas aux États-Unis de régler ces problèmes-là. C'est pas aux États-Unis d'accueillir toute la misère du monde. C'est pas aux États-Unis de régler les problèmes que les autres pays d'Amérique latine ont. Donc, on n'a pas une responsabilité face à cette souffrance-là.
Alors pourquoi, les États-Unis peuvent s'immiscer sur certaines choses en Amérique latine, sur certaines décisions? Pourquoi ils font de la pression pour qu'on prenne des décisions, les gouvernements prennent des décisions?
Donc tu dis que d'une certaine façon, les Américains récoltent un petit peu le résultat des politiques qu'ils ont menées face à ces pays-là au fil du temps.
Bien, c'est ce que les gens pensent là-bas. Je vais vous dire quelque chose. Rigoberta Menchú, quand elle a perdu la présidence au Guatemala, quand elle était candidate, qui était la prix Nobel de 1992.
La prix Nobel de la paix, oui, voilà.
La prix Nobel de la paix. Elle a dit que c'était la faute des gens des États-Unis et des Canadiens. Elle me l'a dit à moi. Parce que c'est l'argent de la drogue qui était consommé ici, qui avait gagné avec les partis corrompus là-bas. Et que c'est pour ça qu'ils avaient plus d'argent et pouvaient gagner la présidence.
Donc, écoute, moi, je suis content qu'on se parle parce que tu es en train de nous donner, dans le fond, l'optique, l'état d'esprit, l'espèce de mentalité des gens qui décident à un moment donné dans ces pays-là, comme le Guatemala et le Salvador, de prendre le chemin vers le nord puis de se dire, je vais essayer d'améliorer le sort de ma famille.
Oui, quitte à que je sois d'accord ou non, je vous dis seulement.
C'est comme ça qu'ils pensent. C'est comme ça qu'ils pensent. Oui. OK. Mais est-ce que tu crois que, parce que c'est un peu ça que tu nous disais tout à l'heure, là, est-ce que tu crois qu'il y a des parents qui font ce voyage-là en sachant que leurs enfants pourraient leur être arrachés, puis ils sont quand même prêts à vivre avec ce risque-là et à faire vivre à leurs enfants l'enfer là, qui pourrait les marquer pour le reste de leur jour?
En date d'aujourd'hui, oui. En date d'aujourd'hui. Il y a un mois et demi, non. Mais en date d'aujourd'hui, oui.
Pourquoi? Parce qu'en date d'aujourd'hui, on sait que c'est ça qui va arriver. Alors qu'auparavant, c'est pas ça qui arrivait.
Voilà.
Mais même en sachant ce qu'ils savent, même en voyant les images, parce qu'il y a un moment donné, quand tu te promènes en Amérique latine, là, il y a des TV, il y a CNN en espagnol, puis il y a Univision, puis tout le reste. Tu sais, tu marches, ou tu progresses vers la frontière américaine, tu vois la crise des enfants qui sont séparés de leurs parents, tu décides consciemment de continuer, tu prends ce risque-là.
Bernard, aujourd'hui, notre correspondant du Mexique était à Tapachula. Aujourd'hui, à Tapachula, il a fait une interview avec une femme qui venait du El Salvador. Il lui a demandé si elle savait à quoi elle s'exposait. Elle lui a répondu que oui, puis qu'elle préférait s'exposer à ça que garder son enfant au El Salvador. La situation
est vraiment désespérante. Désespérée et désespérante. Oui. Là, t'as vu, Trump dit qu'il va signer un executive order, une espèce de décret présidentiel pour mettre fin à cette politique de séparation des enfants et des parents. Donc, on reviendrait, si je comprends bien, à la situation antérieure, c'est-à-dire si les parents sont incarcérés, les enfants sont incarcérés avec eux en attendant le procès.
C'est juste de la séparation. On parle juste de la séparation. Oui, c'est oui, ça, oui. Le décret. On ne parle pas d'autres mesures.
Non,
là.
C'est juste ça. Oui, oui, absolument. Bon,
c'est long,
on s'entend que c'est mieux que ce qui règne présentement.
Oui,
là.
Mais il faut attendre la signature de Donald Trump parce qu'on sait très bien qu'il peut changer d'avis d'une minute à l'autre.
Tu as raison.
S'il y a un membre du gouvernement d'un de ces pays qui dit quelque chose puis Donald Trump y est choqué, ça pourrait changer.
Oui, ça, on ne rentrera pas là-dedans. Jorge Contreras, qui est correspondant donc au Canada pour la chaîne espagnole Univision, donc qui est basée ici à Montréal. Merci beaucoup de t'être déplacé et de nous avoir présenté l'autre perspective, dans le fond, et continue ton travail. Et puis, on n'hésitera pas à faire appel à tes services à nouveau au besoin.
Merci, Bernard.
Merci. Dans un instant, on va changer de registre, là. On s'en va à Dallas pour... vous savez, c'est le repêchage là, qui s'en vient dans la Ligue nationale. Là. C'est dans 2 jours, là. Et on s'en va à Dallas. C'est François Gagnon qui est là-bas, n'est-ce pas? Donc, il va nous faire un peu l'analyse de ce qui se passe. Et Danny Dubé aussi est à Dallas. Les deux sont là-bas. On va leur parler des options devant lesquelles on est placé comme Canadien de Montréal. C'est quoi les options de Bergevin? Avec deux analystes qui connaissent le hockey, là, on va prendre le temps de discuter de cette question très importante, n'est-ce pas? Là, je fais de l'ironie, j'espère que vous l'entendez, parce qu'après le sujet qu'on vient de faire, dans le fond. OK, on s'arrête.